Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Après l'entrée des forces armées ukrainiennes dans Kherson, se pose la question de la suite du conflit. Quelle sera la stratégie de la Russie dont l'armée se replie, en particulier si l'Ukraine tentait de reconquérir la Crimée? Quel avenir politique également pour Vladimir Poutine, que l'on dit affaibli par ses échecs successifs? Nous posons ces questions à Nicolas Tanzer. Il est essayiste, géopolitologue, directeur du journal Desk Russie, et il est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Le repli de l'armée russe de Kherson a été, somme toute, assez rapide. On aurait pu imaginer que les Russes tiennent leur position coûte que coûte. Est-ce à dire que la Russie est en train de perdre la guerre?
Écoutez, il est en tout cas clair que la Russie ne peut pas gagner la guerre. Ça déjà depuis un certain temps, parce que les forces russes, on le sait, sont dans un état vraiment critique. L'armée russe a perdu énormément de soldats, probablement à peu près 90 000 à 100 000, ce qui veut dire à peu près 250 000 au moins hors d'état de combattre, que leur matériel est vieillissant, ne peut plus être vraiment bien renouvelé en raison des sanctions, et donc de toute manière sur le terrain, c'est-à-dire sur le plan terrestre en tout cas, l'armée russe ne peut plus vaincre. Elle peut encore frapper à l'aide de missiles destructeurs pour la population ukrainienne et pour les infrastructures civiles, mais c'est tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui.
On s'achemine vers un espèce de blackout où on peut imaginer que, sachant cette guerre perdue, l'état-major russe, pressé par l'aile la plus nationaliste du Kremlin, pourrait être tenté d'utiliser par exemple l'arme nucléaire ou une bombe sale, il en a été question.
Écoutez, il faut jamais rien exclure, malheureusement, hein, mais en revanche, je pense qu'il faut surtout garder la tête froide. Je pense en particulier qu'en ce qui concerne l'arme nucléaire tactique, les chances de l'utiliser sont assez réduites, heureusement d'ailleurs, que c'est toujours évidemment un moyen de propagande à l'égard des opinions occidentales relayées par les propagandistes en Europe ou aux États-Unis, mais c'est très peu vraisemblable. Quant aux bombes sales, hein, c'est-à-dire des bombes avec des composantes chimiques voire radioactives, on ne voit absolument pas l'intérêt militaire, si vous voulez, de l'utilisation de ce genre de bombes, qu'en plus il est très difficile de manipuler.
Vladimir Poutine, qui enchaîne les revers et les défaites militaires, pèse-t-il encore politiquement et peut-il être destitué ou même renversé?
Écoutez, pour l'instant, il faut rester extrêmement prudent sur ce genre d'hypothèse, hein, parce que personne n'en sait rien. Poutine conserve quand même, semble-t-il, un certain nombre d'appuis du côté du FSB, hein, c'est-à-dire les services de renseignement, une partie des services de renseignement russes. Bien sûr, il y a des voies de contestation. L'armée elle-même, sur le plan politique, n'a pas véritablement de rôle à jouer. Et les forces extrémistes, nationalistes, les milices du groupe Wagner et en particulier de son chef, Evgeny Prigojine, pourraient effectivement être tentés par ce genre de solution. Mais pour l'instant, encore une fois, on peut dire que tout est possible. Ça peut être dans un mois, dans deux mois ou dans cinq ans. Mais encore une fois, restons très prudents sur des hypothèses de coup d'État.
On voit aussi l'opinion publique, hein, qui commence à bouger. Alors il y a ces mères de soldats, ces femmes de soldats qui réclament des comptes quelque part à l'administration, aux militaires et aussi un peu indirectement à Vladimir Poutine. Et puis on a aussi ces télévisions russes qui sont très propagandistes, qui commencent à laisser filtrer quand même une petite musique du genre « Eh bien oui, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée que cette guerre ».
Oui, alors je pense qu'il y a effectivement du côté de l'opinion publique une conscience effectivement de cette catastrophe. Les associations de mères de soldats, hein, elles avaient déjà existé lors de l'invasion de l'URSS, enfin de l'Afghanistan. Elles avaient également existé lors de la guerre de Tchétchénie, ou des guerres de Tchétchénie plus exactement. Malheureusement, leur impact reste faible. Effectivement, ce qui se passe à la télévision est assez incertain, mais je pense qu'aujourd'hui, même les propagandistes du régime se rendre compte qu'ils ne peuvent plus cacher l'évidence de la défaite à la population. Donc, pour l'instant, sans attaquer directement Poutine et le Kremlin, ils cherchent des boucs émissaires. Et l'un de ces boucs émissaires faciles, évidemment, est l'armée. Mais l'armée, il faut le savoir, n'y peut d'une certaine manière rien. Elle a été laissée, je dirais, en raison de la corruption rentrant en son sein dans un état, effectivement, de faiblesse. On a dit que l'armée russe, il y avait des études là-dessus, c'était modernisé, ce n'était pas véritablement le cas. Donc on s'aperçoit, en quelque sorte, que le roi est nu. De là à penser que ces manifestations de protestation ou ce scepticisme puisse conduire brutalement à la fin du régime, je pense que là aussi, soyons très, très prudents sur cette étape future, même si on peut l'espérer, bien sûr.
Vous évoquiez tout à l'heure, Nicolas Tanzer, Wagner. Alors, Wagner a inauguré son QG, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas son siège en grande pompe, un siège important, son patron, si vous me permettez le terme, ne cache pas ses ambitions de livrer une guerre aussi sur le terrain cyber et sur un terrain plus électronique. Est-ce que ça peut être un élément qui changerait le cours de la guerre ?
Non, parce que je pense que tout simplement, je dirais même Wagner, qui est puissant au sein de l'État russe, n'a quand même pas cette capacité. Encore une fois, les méfaits de Wagner, ils sont connus depuis très longtemps. Il s'agit d'une organisation criminelle dirigée par un criminel qui, en quelque sorte, est le symbole qui était resté caché depuis très longtemps de ce régime criminel, qui est précisément le régime de Poutine depuis 23 ans. Là, tout le monde le savait. On sait aussi, c'était présent, vous savez, dans le rapport du procureur spécial Robert Mueller, sur les possibilités de collusion de Trump avec la Russie. Ils étaient déjà cités, hein, les Wagner et notamment Prigogine. Donc tout ceci n'est pas nouveau. De là à penser qu'ils puissent revoir complètement le cours de la guerre, non. Ce qui est évidemment très frappant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le crime s'expose finalement sans aucune retenue. Mais encore une fois, ce crime était déjà présent dans l'ADN du régime Poutine depuis le début.
Que peut-on craindre si demain Vladimir Poutine quittait d'une façon ou d'une autre le pouvoir ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ?
D'abord, je pense qu'il ne faudrait pas le craindre. Je pense qu'il faudrait surtout s'en réjouir. Bien sûr, il y a une partie de la propagande qui est reprise parfois à l'Occident, disant « Ah oui, mais on sait qu'il y a M. Poutine, c'est qu'il peut y avoir toujours des forces plus extrémistes. » Bien sûr, on peut toujours trouver des forces plus extrémistes, mais c'est comme si on disait, je dirais, en 44 ou 43, il y a toujours des forces plus extrémistes que Hitler. Je dirais, on a un régime, encore une fois, qui a tué plus de 100 000 civils depuis 23 ans. Alors, on peut imaginer toujours pire. Mais je pense qu'aujourd'hui, le pire qui existe, c'est déjà le régime de Vladimir Poutine. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas craindre un effondrement du régime russe. Je pense qu'il faut vraiment le souhaiter. Après, pour l'Occident, il s'agira de gérer, bien évidemment, une phase de transition, d'être présent, d'avoir une stratégie de moyen et de long terme pour la Russie, de ne pas répéter des erreurs de 1991, notamment qui avaient fait que l'Occident s'était désintéressé du sort de la population russe appauvrie par les réformes économiques. Ça, il va falloir évidemment s'en occuper. Mais encore une fois, réjouissons-nous plutôt si cette perspective devait advenir.
Quelle sera alors la place de la Fédération de Russie sur la scène internationale après cette guerre ? Parce que on imagine que la Russie devra répondre aussi de crimes de guerre. Peut-on même imaginer Poutine jugé par la Cour pénale internationale ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, l'ensemble des crimes, il y en a quatre catégories exactement. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression. Tous ces crimes ont été commis par la Russie. Ils devront tous être jugés. Les trois premiers, c'est-à-dire hors le crime d'agression, par la Cour pénale internationale et le crime d'agression par un tribunal spécial qui permettrait de remonter directement à Poutine et à l'ensemble des dirigeants du régime. Ça, c'est tout à fait indispensable. Deuxièmement, il faut absolument arrêter avec l'idée qu'il faudrait y avoir une forme de négociation quelconque, territoriale ou autre, ou sur les jugements, ou sur les réparations avec la Russie telle qu'elle existe aujourd'hui. Non, je pense qu'il n'y a pas de perspective de négociation et il faut arrêter de parler aujourd'hui d'accords de paix. Maintenant, à moyen et long terme, si un jour on a un régime démocratique avec la Russie, oui, bien sûr, je dirais tout ce qu'on pourra faire en termes de coopération avec ce pays sera bien sûr le bienvenu, mais vous voyez bien qu'on n'en est pas encore là et il faut vraiment préparer le terrain bien en amont.
Un dernier mot, Nicolas Tanzer. Est-ce que la guerre risque encore de durer ?
Écoutez, c'est la crainte qu'on peut avoir, tout simplement parce que de la part des Ukrainiens, il reste plus de 100 000 mètres carrés à reconquérir, cela prendra du temps. Peut-être d'ailleurs que ça commencera par la Crimée, qui n'a pas d'ailleurs de statut différent. Je veux dire, c'est un endroit, une partie du territoire ukrainien est légalement occupée. Enfin, il faudra reconquérir ces 100 000 et plus kilomètres carrés, le Donbass, la Crimée, quelques autres régions. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'encore une fois, les Ukrainiens disposent encore plus d'armes nécessaires pour véritablement faire en sorte que les forces russes quittent complètement le territoire. Il faut le faire vite, parce que chaque jour qui passe, ça veut dire plus de victimes ukrainiennes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment le plus préoccupant. Vraiment, le temps compte. Donnons tous les moyens à l'Ukraine pour reconquérir. Faisons en sorte que la guerre ne dure pas plus longtemps, ou dure le moins longtemps possible. Mais c'est encore une fois, c'est de nous, très largement, que cela dépend, et bien sûr de la vaillance, mais ça, elle est indiscutable, des forces ukrainiennes.
Nicolas Tanzer, essayiste, géopolitologue, directeur du journal Desk Russie, était notre invité ce matin en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.